First Corinthians chapter
1 Corinthiens
13,
chapitre 13
has been our theme for,
a été notre thème
the last couple of weeks.
Pendant les dernières semaines.
Started it in Budapest.
On a commencé cela à Budapest.
And, the Spirit of God has
et l'Esprit de Dieu
really helped us,
nous a vraiment aidés
us,
et dirigé
our understanding
dans notre compréhension
very important theme.
Sur ce thème vraiment important.
Come up to me and said,
beaucoup de gens
wow.
viennent vers moi et me disent «
Wow ». And I said, what do you mean?
They et said, je leur dis « Qu'est-ce que tu
wow.
veux dire ?» Ils disent « Wow ».
Said, can you explain it? They said,
je
wow.
dis « Est-ce que tu
wow.
peux m'expliquer ?» Ils disent « Wow, wow ».
There is such a important revelation.
Il y a une révélation tellement importante pour nous lorsque nous pensons
love,
au sujet de l'amour,
love,
l'amour agapé, l'amour de Dieu.
Some were in Silver Spring last
Certains
night,
étaient
and I heard it was
à Silver
awesome,
Spring
people,
pour le spectacle avec plusieurs centaines de personnes. Une dizaine de personnes se sont données à Jésus.
And this week, this is going to happen. Is the first night Thursday? First night.
Et cette semaine,
Thursday, right
jeudi,
here,
ce sera ici dans notre
stage.
Église,
and
sur
then,
cette
on,
estrade.
On Friday and Saturday, right, Pastor Knight?
Et vendredi et samedi
and,
aussi.
We wave palm branches,
ce matin, on a agité quelques branches de palme. Et la signification de cela est ceci. Laissez-moi faire un petit dessin.
Okay, here we go. Here is an umbrella with people
ça, c'est,
under the umbrella.
C'est un parasol
and
avec des gens en dessous.
Is the Holy Spirit government of God
et ça, c'est le gouvernement du Saint-Esprit de Dieu sur les disciples.
On that we call it Palm Sunday. That's this today.
In dans le jour des rameaux, comme aujourd'hui. Et dans la tradition des Juifs,
Passover,
avant la Pâque,
this Thursday, perhaps it is Friday, Christ, on the Thursday, had the Last Supper, and they celebrated
et donc Jésus
Passover.
A eu,
days before, four days
Jésus a eu le jeudi, certainement le jeudi ou le vendredi, la dernière Pâque qu'il a fêtée avec les disciples. Et les gens, les Juifs, voyageaient vers Jérusalem. Donc 4-5 jours avant la Pâque, les Juifs allaient sélectionner un agneau, l'agneau qu'ils allaient manger pour la Pâque et qu'ils allaient sacrifier, bien sûr. Comme ils ont fait 1500 ans avant, quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont mangé l'agneau et ils ont quitté l'Égypte la nuit. Mais l'agneau ne devait pas avoir de taches, un œil en mauvais état ou boiteux. Il ne pouvait pas être un agneau malade. Donc, il sélectionnait les agneaux. Et ça, c'était le jour où ils sélectionnaient l'agneau qu'ils allaient immoler. Parfois, c'était le jeudi, des fois, c'était le vendredi, des fois, c'était deux fois. Une double Pâque. Et quand Jésus donc il y a une montagne où Jérusalem, ensuite il y a une vallée à l'est, ensuite il y avait le mont des Oliviers, et ça descend petit, petit, petit vers l'est. Et c'était là, à Béthanie, qu'il a dit à ses disciples, « Allez chercher un agneau. » Et quand ils sont allés, il s'est assis sur l'âne, ensuite il est remonté sur le mont des Oliviers, il est descendu vers Jérusalem. Les gens étaient sous le gouvernement de ce parasol de Dieu, le Saint-Esprit. Et ils avaient une fête à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur cœur. Ils étaient en train de célébrer Hosanna. Et ça, c'était la sélection de l'agneau. Et la main de Dieu était sur l'agneau que Dieu avait choisi, qui allait mourir pour les péchés du monde. Et vous allez le manger. Et donc, venant et descendant, ils ont commencé à être enthousiasmés. Tu sais, quand on est vraiment enthousiasmé, on n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin de limousine, on n'a pas besoin de lumière, on a juste besoin, quand on fait une fête avec Dieu, c'est au-dedans de nous. Et quand la fête est en nous, donc ils ont enlevé leurs vêtements et ils l'ont mis par terre. Et ils sont allés vers les arbres, ils ont cassé des branches, et ils agitaient les branches, et ils ont eu la fête, parce que l'agneau de Dieu était en train de venir dans la ville de Jérusalem. Et nous pouvons dire aussi que la Pentecôte, c'est la continuation de la fête. Et
ce
n'était pas simplement le Saint-Esprit sur les gens, mais pendant la Pentecôte, on sait que le Saint-Esprit est venu dans les gens. Et ils ont eu en eux la continuation de la nature de Dieu. Car quand l'agneau a été immolé, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé dans l'histoire. Et alors que nous sommes en lui et qu'il est en nous, nous avons une unité qui est extraordinaire au milieu de nous-mêmes. Et dans 1 Corinthiens 13, cela est appelé quand ce qui est parfait viendra. Quand ce qui est parfait est venu, qu'est-ce que c'est? L'auteur est en train de mentionner, qu'est-ce qu'il est en train de mentionner exactement? Il est en train de mentionner une voie plus excellente. On voit ça dans Colossiens 3:10. Il est parlé des liens de la perfection, les liens de l'amour. C'est une pensée. Et nous disions ça la semaine dernière, cette pensée est enracinée dans notre nouveau cœur, le nouveau cœur que Dieu nous a donné dans Ézéchiel 36:26, un nouveau cœur et un nouvel esprit. Et de ce nouveau cœur, nous avons une pensée qui est renouvelée. Il n'est pas dit notre cœur est renouvelé. Il est dit notre cœur est nouveau et notre pensée est renouvelée dans Romains 12, verset 3. Notre cœur et nos pensées sont sales, mais Dieu renouvelle notre cœur et notre pensée. L'amour de Dieu est dans notre nouveau cœur et notre nouveau cœur a un impact sur les nouvelles pensées que Dieu veut que nous ayons. Nous n'avons pas un cœur ou une pensée blessée, nous avons des pensées en bonne santé. Et même si la vie nous a blessés, et c'est possible, des gens que nous avons rencontrés tout autour du monde, et j'aime entendre des histoires des missionnaires, des gens qui ont été blessés, et nous avons tous été blessés. Mais ça, c'est le travail du Messie qui vient, qui descend de la montagne. Et nous sommes tellement heureux de cela que nous prenons les branches et que nous les agitons le long du chemin. Et nous adorons Dieu parce qu'il est le Messie, celui qui va changer toute ma vie, celui qui va enlever tous mes péchés, celui qui va me donner un nouveau cœur et qui va renouveler mes pensées. Et peut-être que lundi ou mardi ou vendredi ou samedi après-midi, peu importe, mes pensées ont été salies et je suis des fois effrayé de cela, que c'est possible pour un chrétien de vivre avec des pensées dégénérées. Nous disions cela la semaine passée. Je vais faire quelques images, après je vais prêcher. Voilà à gauche le nouveau cœur et à droite le vieux cœur avec le trou dedans, le manque de Dieu. Et ça c'est nous. Et nous avons nous-mêmes, chrétiens, la capacité de fluctuer d'un cœur à l'autre. Et ça m'arrive. Et je dis au Seigneur, Seigneur, ça c'est pas l'amour agapé. Et je demande à Dieu de me pardonner. Et immédiatement, je suis pardonné et je marche dans la communion avec lui. Parce que sous le parasol qu'on a vu tout à l'heure, il y a une vraie communion avec d'autres personnes. Et c'est la communion de l'amour. Ce n'est pas la communion avec les blessures, de la vengeance, de la souillure, des complaintes, et nous en avons beaucoup au fond de nous, mais c'est la communion, c'est pas la communion de la peur. Et des fois, je me lève le matin avec anxiété. Et comme beaucoup de pasteurs, nous pouvons dire, oui, nous avons un sens d'échec, de faute, d'insuffisance, de désavantage, d'avoir mal été compris et de blessures aussi, de persécution même, des gens qui ne nous comprennent pas. Et cela est vraiment commun dans notre nature, c'est ce cœur à droite. Dans Ésaïe 1, verset 5, il est dit que c'est le cœur malade de l'homme. Je peux vivre dans ce cœur-là. Un cœur qui ne peut pas, qui est incapable. Ça, c'est la nature de l'homme. Et bien souvent, comme nous avons lu dans l'histoire de Luc 19, les pharisiens qui vivaient dans ce mauvais cœur, étaient jaloux de Jésus et ils sont venus à Jésus alors qu'ils regardaient Jésus descendre marchant sur les vêtements des gens et il avait un visage si doux, il avait un visage tellement aimant. C'était le parfait agneau de Dieu sans faute, sans tache. Et les pharisiens disent, « Hé, toi, maître, reprends tes disciples, arrête-les de t'adorer. » Et on retourne à cette image. Les pharisiens, c'est la couverture du Saint-Esprit qui fait ça dans les gens. Je ne peux pas reprendre ces disciples. Ce n'est pas eux. Ça, c'est mon Père Céleste qui les a oints pour dire ces mots et de me reconnaître comme le Messie. Je ne peux pas, on ne peut pas aller à l'encontre de ce que Dieu est en train de faire ici. Et dans une voie similaire, nous pouvons dire que Dieu est en train de faire la même chose. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et s'il y a un travail de Dieu qui se passe dans le monde, alors c'est Dieu qui oint ses disciples dans ce pays. Et on a entendu des bons témoignages de pasteur Carl qui a appelé à la radio depuis l'Inde. Et en Chine, des dizaines de millions de chrétiens en Chine. Et le travail de Dieu dans le pays de la Chine est vraiment extraordinaire. Et j'aimerais, on a un frère, on a une amie qui s'est convertie en Iran, alors que Christ lui est apparu, alors qu'elle était musulmane. Et ensuite, elle a rencontré un homme de Dieu. Et cet homme lui a dit, j'ai quelque chose à te dire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car mon fardeau est léger. Prenez sur vous mon joug. Et il a, donc cet homme de Dieu lui a donné ce verset de Matthieu 11, 28, 29. L'Esprit de Dieu, qui n'est pas simplement sur l'Église, mais qui marche dans le monde pour attirer les gens à lui, et quand les gens viennent et croient, il leur donne un nouveau cœur, et il leur donne des pensées renouvelées. Et nous vivons dans les pensées renouvelées, dans les pensées de Christ, qui sont très bonnes, pas dans un esprit de peur, mais un esprit de puissance. Dans 1 Corinthiens 13, il est dit au verset 4, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. J'ai lu une histoire d'une femme qui a été mariée pendant 30 ans, qui avait des petits-enfants et des enfants. Et après 38 ans de mariage, l'homme a trompé sa femme. Et quand elle a découvert cela, elle était tellement dévastée au fond d'elle-même. Elle est venue à lui, ils ont parlé, et elle a dit, c'est fini entre nous. Tout le mariage a été faux. C'est fini. Elle était tellement blessée que ses blessures dans son cœur sont devenues le focus et la perception de son mari. C'est dangereux. Parce qu'ici, nous avons besoin de réaliser quand Dieu nous donne cette sorte de communion, c'est ce qu'on voit dans Jean 17, 23. Dans ce genre de communion, il y a du pardon, il y a de la guérison, il y a de la reconnaissance. Et lorsque nous réalisons que l'amour de Dieu pour nous, et je pensais à cela, dans cet exemple biblique, de David et Bathsheba. Et bien sûr que l'adultère est un sale truc, un péché terrible. Gardez-vous de cela. Fuyez ce genre de choses et gardez-vous. Parce que ce cœur, ce nouveau cœur que Dieu nous a donné est nouveau, il est puissant, il est pur, il est propre et il est connecté avec les pensées des Écritures. Il aime les Écritures. Il écoute les Écritures. Pourquoi Jésus a dit, tu ne devrais pas commettre adultère dans les 10 commandements? Parce qu'il connaît le poison de cela. Et il nous protège. Parce qu'il connaît la nature dévastatrice de cela. Dans ton âme et dans les personnes autour de toi, il sait combien c'est dangereux. C'est comme prendre du feu dans ton cœur. Ou alors donner un pistolet à un enfant. Enlève le poison, enlève le feu de ton cœur, enlève toutes les tentations. Tu ne commettras pas adultère, tu ne convoiteras pas, tu ne commettras pas le meurtre. Et c'est ce que David a fait, trois choses. Il a convoité la femme de quelqu'un, il a commis adultère et il a tué le mari de cette femme. Si tu veux comprendre ces choses, lis cette histoire et pense à cela. Et allons vers eux et utilisons notre nouvelle pensée et disons à Dieu, oui, convainc-moi, dis-le-moi encore, je vais être occupé avec la vérité dans l'homme intérieur. Ça, c'est la communion de l'amour. Dieu nous aime. Mais il y a la grâce dans cette histoire. Bathsheba a eu un enfant avec David, donc, le fruit de l'adultère. Et l'enfant a vécu quelque temps. Et Nathan est venu à David et il lui a dit que l'enfant va mourir. David a jeûné, prié, mais l'enfant est mort. Et Bathsheba est complètement brisée de la mort de ce bébé et de la perte de son mari. Et qu'est-ce que David va faire? David s'est relevé quand l'enfant est mort. Il s'est levé et il a commencé à adorer le Seigneur de toute grâce. Et il a élevé son âme vers Dieu, son cœur vers Dieu. Et Dieu lui a donné un nouveau cœur. Et qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il s'est levé? Il a pris Bathsheba et il l'a épousée. Il l'a pris comme sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait?
Et
ils ont eu un nouvel enfant. Et le nom de cet enfant est Salomon. Et qu'est-ce que Dieu a fait?
David a, je crois, à ce moment, il a 16 autres fils. Ne me quote pas, je dois vérifier. J'ai fait une générale chose, je peux être wrong.
Je pense qu'à cette époque-là, que David avait déjà plusieurs femmes, 60 fils. Mais quel fils Dieu a choisi? Le fils de Bathsheba et de David. Et son nom est Salomon. Qu'est-ce que cela veut dire? Je pense que je peux accuser David toute la journée et dire c'est pas bien, c'est pas bien. Et je peux même accuser Dieu. Dieu, comment tu peux faire une chose pareille? Tu dois protéger ta sainteté, ta réputation, ton nom. Et Dieu nous regarde et il dit, tu n'as aucune idée de qui je suis. Je suis Dieu, je suis le Dieu de la vérité. Et je suis le Dieu aussi de la grande grâce, le Dieu de la nouvelle pensée et du nouveau cœur. Tu n'as aucune idée de qui tu es dans ton cœur et tes jugements sur moi. C'est une indication du fait que tu ne connais pas la communion de l'amour et de la grâce que j'ai ordonné pour toi dans le royaume de Dieu. Donc, va vers l'autre cœur. J'aimerais dire à chacun de nous, soyons très prudents sur le jugement que nous amenons sur les gens. Soyez très prudents du jugement que nous avons les uns envers les autres. Parce que chacun ici va échouer un jour ou l'autre. Et on va tous se décevoir les uns les autres. Mais Dieu a décidé de nous aimer avec un amour qui est appelé l'amour agapé. Et il l'a mis dans notre cœur. Et dans nos pensées, et nos pensées pensent avec la vérité. Et cet amour supporte tout, comme on le voit dans 1 Corinthiens 13, 4. Et je veux être gentil avec vous aujourd'hui. J'aimerais vous encourager, et j'aimerais vous dire, nous avons une communion d'amour et combien nous devons nous aimer de cet amour. Comme il est dit au verset 4, elle est patiente, elle endure tout. Peut-être les choses ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent, mais l'amour est patient, la charité est patiente avec les frères et sœurs. Au milieu de nous, nous sommes patients les uns envers les autres. Elle est pleine de bonté, elle n'est pas envieuse. Elle ne se vante pas. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche pas son intérêt ou sa propre façon. Et je pense simplement, oh mon Dieu, Seigneur, c'est incroyable. Je ne dois pas insister sur mes propres droits, sur mes propres voies. L'amour, la charité ne soupçonne point le mal.
Elle ne
fait pas attention au mal qu'on lui fait.
Unnecessarily, and who could have said, "Oh, damn you"? Who could have said that? There's one person who could have said that. Oh, damn you!
Il y a une personne qui pourrait dire, "Oh mince, alors, zut, maudit soyez-vous." C'est Christ qui aurait pu dire ça, parce qu'il vient, il descend de cette montagne, et les gens sont en train de l'adorer. Et les pharisiens disent, arrête-les. Il a dit, si je les arrête, les cailloux vont l'adorer. Et c'est le Messie qui vient à la porte de l'Est. Et nous avons la même chose. C'est une communion d'amour. Et nous disons, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous disons au milieu de nous, l'amour n'échoue jamais. L'amour n'arrive jamais, n'a pas de fin. Les prophéties seront accomplies et s'arrêteront. Les langues cesseront aussi et la connaissance disparaîtra. Elle sera supplantée par la vérité. Et cela, au verset 9, il dit, car nous connaissons en partie. Et nos prophéties et nos enseignements sont juste partiels. Il n'y a pas un seul enseignant dans le monde qui peut donner tout l'enseignement parfait. Nous donnons juste des morceaux. Et le message de ce matin est juste un petit morceau. Et nous avons un morceau ici, un morceau là. Et nous avons une communion avec ce qui est parfait. L'amour qui est venu. Au verset 9, notre connaissance est en partie et imparfaite. Les prophéties sont, ou l'enseignement est partiel. Mais lorsque ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Et ça, c'est le cas. Dans Jean 17, j'aimerais vous montrer cela. Jean 17, verset 21. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Au verset 23, il est dit, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits. Et ça, c'est un temps parfait. C'est quelque chose qui s'est déjà passé. Cette unité, c'est quelque chose qui s'est déjà passé en lui. Si nous sommes en lui, nous sommes un. Et dans cette unité, au verset 23, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc voici l'amour que Dieu le Père nous a donné. Ça, c'est l'amour que Dieu a donné à chaque personne qui se sont données à Christ. Et dans cet amour, nous pouvons avoir aussi l'amour horizontal. Nous pouvons nous donner l'amour l'un à l'autre. C'est la communion. Et c'est parfait. Parce que ce parasol qui couvrait les disciples est venu en nous, le Saint-Esprit. Et nous exprimons la gloire de Dieu. Et nous avons la fête. Comme les disciples avaient une fête sur le coteau de la colline lorsque Jésus descendait et ils adoraient le Seigneur. Et cela ne pouvait pas être arrêté. Et ce même royaume est au milieu de nous. C'est l'amour de Dieu. Et dans cet amour, il y a un témoignage. Au verset 11, il est dit, lorsque j'étais un enfant, dans le Corinthiens 13, je parlais comme un enfant. J'étais offensé comme un enfant. Verset 11. Je raisonnais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Donne-moi un bonbon. Non. Donne-moi un bonbon. Non, je veux le bonbon. Et l'enfant réagit parce que tu ne veux pas lui donner le bonbon. Lorsque j'étais un enfant, ma tolérance était vraiment basse, très faible. Ma réaction était très élevée. J'étais très orienté vers moi-même. Et le monde était juste mon petit espace à moi. Mais quand je suis devenu un homme, je réalise que le monde, lorsque j'étais un enfant, était vraiment petit. Mon monde était vraiment petit. Et ça, c'est l'amour qui dit à David, Salomon sera le roi parce que je suis le Dieu de grâce. Ça, c'est le Dieu qui dit, je vais prendre Judas, fils de la tribu de Judas, alors que Judas avait été un mauvais homme. Je vais faire de lui un roi. Et c'est ce Dieu qui nous dit, je t'aime, toi, pécheur. Je t'aime maintenant. Je t'aime maintenant parfaitement. Avec l'amour parfait, je t'aime. Et dans ce sens, je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais. Mon amour est inconditionnel. Je t'aime. Je ne suis pas blessé. Je suis Dieu avec un amour qui n'échoue jamais et je t'aime. Et donc Dieu nous dit, viens. Alors que, et l'apôtre Paul dit, maintenant j'ai mis de côté les choses qui appartenaient à l'enfant. Et je suis en train de dire, j'aimerais dire à cette femme qui a été déçue par son mari après 38 ans, j'aimerais que tu connaisses cet amour parce que le pardon est la seule réponse. Et bien sûr que c'est tragique. Je dois penser d'une façon biblique. Donc, excusez-moi, je dois penser avec l'amour de Dieu dans mon cœur. Et lorsque je pense à ce cœur qui est tellement centré sur lui-même et avec ses pensées qui sont tellement dépravées, rappelez-vous de Ponce Pilate qui a dit, qu'est-ce que je dois faire avec celui qu'on appelle Christ? Et les gens ont dit, crucifie-le. Et au travers de la ville de Jérusalem, il y a une force méchante qui venait dans la ville de Jérusalem et qui parlait à Ponce Pilate. Et Pilate a dit, qu'est-ce que je dois faire au sujet de Christ? Peut-être il était nerveux, confus, et nous, ça peut nous arriver, et on doit dire, qu'est-ce que je dois faire? Et lui a dit, les gens lui ont dit, crucifie-le. Et au jour de Pentecôte, ils ont dit, le sang de Jésus est sur nos mains. Et Pierre leur a dit, repentez-vous, soyez baptisés, venez. Dans Actes 2, verset 38, croyez dans le Fils de Dieu. Non pas que le baptême nous sauve. Et il dit que le baptême, c'est pas qu'il nous sauve, mais il nous positionne par rapport à cette génération méchante. Et ils ont eu une nouvelle opportunité, un nouveau cœur et une nouvelle pensée, et une opportunité de marcher dans une nouvelle vie. Oh, frères et sœurs, nous sommes dedans. On n'a pas inventé ces choses. Nous sommes là. Et la chose dans laquelle nous sommes est plus grande que nous. Nous n'avons pas atteint, nous l'avons obtenu. On ne l'a pas acheté, cela nous a été donné. On ne désire pas cela. On avait juste à vivre notre vie comme beaucoup de gens font,
We can't deny it.
Mais on ne peut pas nier. Le Saint-Esprit en nous, la parole, et il n'y a pas un autre chemin, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, il est le Messie. Il y a le même royaume, et des gens vont nous dire, arrêtez, arrêtez. Et nous dirons, on ne peut pas arrêter. Et dans ces jours, nous prenons n'importe quoi, mais juste agitons ces choses. Et dans nos cœurs, nous avons une fête, non pas basée sur les choses du monde, mais sur les choses spirituelles. Et comment il est possible pour chacun de nous, de tous les chrétiens, et de nos frères et sœurs dans nos églises, mais de tous les enfants de Dieu partout, nous disons avec eux, Hosanna à Dieu dans les lieux élevés. Et disons cela toute notre vie et n'arrêtons jamais. Car ça, c'est le royaume de Dieu sur la terre. Le royaume de l'amour. Voulez-vous prier avec moi, s'il vous plaît?